Bien donc, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Razac, qui va nous présenter son ouvrage « Histoire politique du Barbelé », réédité tout récemment chez Champ Flammarion. Le livre était initialement paru donc aux éditions La Fabrique en 2000. Il est alors sous-titré « La prairie, la tranchée, le camp ». La nouvelle version est augmentée. Et l'ouvrage a déjà fait son chemin, puisqu'il a été traduit dans de nombreux pays, en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Croatie, en Finlande, en Grèce, en Allemagne. Alors, Olivier Razac enseigne à l'ENAP, à l'École nationale d'administration pénitentiaire, qui est localisée à Agen. Philosophe de formation, son enseignement porte sur l'histoire et la philosophie de la peine, et sur les questions connexes, comme la déontologie, la surveillance, l'enfermement, l'approbation, le placement sous surveillance électronique. Outre le Barbelé, il est également l'auteur de nombreux ouvrages, ainsi « L'écran et le zoo », spectacle et colonisation des expositions coloniales à Love Story, paru chez De Noël en 2002. La grande santé, chez Climat Flammarion, issu, je crois, d'un travail de thèse, sous la direction d'Alain Brossa. L'utilisation des armes de neutralisation momentanée en prison, qui était une enquête donc, auprès des formateurs de l'ENAP. Hein,
ouais.
Et en codirection, donc, un ouvrage intitulé « Les nouvelles figures de la dangerosité ». Et enfin, un ouvrage sur Foucault intitulé « Avec Foucault, après Foucault, disséquer la société de contrôle », paru donc chez L'Harmattan en 2008. Alors, effectivement, le travail d'Olivier Razac s'inscrit dans la lignée des espaces théoriques ouverts par Foucault et par Deleuze. De Foucault, il reprend la méthode généalogique pour examiner donc les manières dont nous sommes gouvernés, pour disséquer, c'est le terme donc qu'il emploie dans l'ouvrage que je viens de citer, pour disséquer les mécanismes de pouvoir les plus ténus, hein, ce terme de dissection que n'aurait pas renié donc, l'auteur de Naissance de la clinique, le but étant de déjouer les effets d'évidence, les effets de naturalisation que véhiculent les mécanismes de pouvoir. De Deleuze, il reprend et met à l'épreuve l'idée selon laquelle nous serions passés des sociétés de mode disciplinaire aux sociétés dites de contrôle, appelant du même coup donc une nouvelle conceptualité que Deleuze n'a fait qu'ébaucher lui-même dans le post-scriptum des pourparlers, mais que Foucault, en revanche, a développé longuement dans ses cours au Collège de France consacrés à la gouvernementalité et à la biopolitique. La dissection des mécanismes de pouvoir que propose Olivier Razac ne part pas, du moins pas directement, d'institutions existantes, comme l'asile, la prison, l'école, ni même de manières de gouverner, telles que inciter, surveiller, susciter, etc. Mais, semble-t-il, l'originalité et la force de sa généalogie, de sa méthode généalogique, tient au fait qu'elle se recentre sur les objets techniques spécifiques plutôt que sur des dispositifs. Ainsi, le barbelé, mais aussi le bracelet électronique, le GPS, le pistolet taser. Comme si on ne pouvait parler de dispositifs de pouvoir, terme sans doute un peu trop fourre-tout, qu'à condition de commencer par examiner de manière méticuleuse des objets qui fonctionnent, selon l'expression de Foucault, comme des schémas de docilité. Et c'est là, semble-t-il, une manière fort originale de reposer la question foucauldienne des micro-pouvoirs, partir d'un système des objets qui scandent et qui structurent notre expérience commune. La réflexion sur le barbelé part du paradoxe suivant. Comment un objet aussi rudimentaire et aussi abstrait que le barbelé peut-il s'avérer aussi efficace? Pour reprendre les termes de Gilbert Simondon, philosophe, auteur du mode d'existence des objets techniques, on pourrait montrer qu'il s'agit de comprendre le mode de concrétisation d'un objet technique, comme le barbelé, c'est-à-dire la manière dont il va gagner en efficacité, dont il va gagner en technicité, en s'associant en réseau avec d'autres outils, tels que précisément le bracelet électronique ou le GPS, concourant à constituer un ensemble technique. C'est en ce sens, peut-être, qu'Olivier Razac peut dire que dès la phase encore abstraite de son développement, le barbelé annonçait son propre dépassement, dans la mesure où il consistait en une nouvelle manière de clôturer, plus souple, plus discrète, faisant l'économie des matériaux lourds comme la pierre ou le bois. Il anticipait, ipso facto, sur sa future association avec d'autres machines, sur sa future mise en réseau avec d'autres objets techniques, fonctionnant au virtuel plutôt qu'à l'actuel. Mais nous n'aurons pas cependant affaire à une histoire simplement technologique du barbelé, qui viserait, à travers une genèse interne, à retracer son devenir objet et son procès d'individuation en tant qu'objet technique. Il s'agit bien, et le titre de l'ouvrage le dit explicitement, d'une histoire politique, où d'entrée de jeu, le barbelé est caractérisé comme un outil politique et pas simplement comme un outil agricole et technique. En modifiant les techniques pastorales de délimitation d'un territoire, le barbelé opère des partages, des exclusions, des inclusions, dont une histoire technologique, peut-être, ne permettrait pas de rendre compte. Olivier Razac montre ainsi que l'implantation et l'essaimage du barbelé a consisté en trois modes de gestion politique de l'espace, un mode d'appropriation qui concerne la conquête de l'Ouest, c'est l'implantation des barbelés sur la prairie, un mode stratégique et défensif à propos des tranchées durant la Première Guerre mondiale, et un mode concentrationnaire qui renvoie au camp d'extermination durant la Seconde Guerre mondiale. La prairie, la tranchée et le camp fonctionnent ainsi comme trois paradigmes permettant de penser les effets de lieu, expression qu'Olivier Razac emprunte à Bourdieu, les effets de lieu donc que suscite la technologie du barbelé, avec tous les effets d'euphémisation que cela peut impliquer, donc, concernant donc, la manière dont le barbelé est perçu dans l'imaginaire. Le barbelé est en cela un objet capital, semble-t-il, pour comprendre notre conjoncture, qui, comme l'a montré notamment Étienne Balibar dans « La crainte des masses », se caractérise par un phénomène de vacillation des frontières. Vacillation des frontières quant à leur tracé géographique et quant à leur fonction traditionnellement reconnue, à savoir marquer les limites d'un territoire. Et du même coup, marquer les limites d'un pouvoir souverain. Pensons en ce sens à des perspectives très différentes, comme, mais néanmoins accordées sur ce point, que seraient les analyses de Machiavel, de Locke ou de Schmitt, sur le rapport entre la souveraineté et le territoire. Une généalogie d'un objet mobile et souple comme le barbelé permet de comprendre en quoi les frontières aujourd'hui ne sont plus aux frontières précisément, au sens où les frontières ne sont plus localisables de façon univoque aux postes frontières. Au sens où les frontières se démultiplient à l'intérieur des États pour délimiter ce que Foucault appelait des espaces autres, des zones de transit non codifiées directement par un système juridique. Il semble qu'en ce sens, le livre d'Olivier Razac permet de comprendre l'idée que j'évoquais de Balibar, selon laquelle les frontières ne sont plus le bord du politique, mais qu'elles sont devenues des objets ou des choses dans l'espace même du politique, comme le souligne Balibar. Le barbelé, objet technologico-politique, en témoignerait. Mais je vais laisser Olivier Razac donc développer sa propre réflexion dans son ouvrage.
Oui, tu as déjà dit pas mal de choses, mais je crois qu'effectivement, le point de départ c'est d'un travail, quel qu'il soit, c'est souvent un étonnement. Et par rapport au barbelé, le point de départ, c'était cet étonnement entre à la fois une persistance étonnante d'un objet aussi archaïque et rudimentaire, comme l'a souligné Hervé, mais aussi d'un objet marqué symboliquement très fortement et très négativement. Pour aller très très vite, le barbelé représente très facilement, hein, il suffit de voir la couverture, il représente très facilement la violence politique extrême, et en particulier des objets tout à fait précis comme Auschwitz, les camps, la Shoah, etc. Donc, à la fois un objet qui est archaïque, qui est dépassé, qui est d'une violence évidente, qui est symboliquement marqué, et en même temps, une certaine persistance de cet objet. Bon. Et c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, non pas de faire simplement une histoire du barbelé et de ses apparitions, mais de comprendre à chaque fois à quoi il a servi. Et le barbelé, c'est, voilà, si on fait une histoire des technologies, on va s'intéresser à leur développement, à la manière dont elles peuvent se manifester. Là, il s'agissait d'avoir plutôt un point de vue stratégique, c'est-à-dire à quoi répond cet objet technique en termes de besoins pour gérer un espace et des populations qui peuplent cet espace. Et ce qui est apparu en faisant simplement d'aller chercher l'origine historique du barbelé, donc à peu près la fin du 19e siècle aux États-Unis, un barbelé moderne, hein, puisqu'il y a plusieurs prototypes, c'était de comprendre que justement ce barbelé répondait à des nouveaux besoins stratégiques d'occupation de l'espace. Et en prenant finalement les trois grandes manifestations politiques du barbelé, ce que tu as très bien dit, hein, donc d'acquisition de l'espace, défensif et concentrationnaire, ça dessinait finalement une sorte d'ensemble technologico-politique du barbelé qui finalement peut se manifester par, enfin peut se signifier par un seul mot, qui est la virtualisation. C'est-à-dire que le barbelé qui était pour nous, qui est pour nous un objet archaïque, brutal, signe d'un temps dépassé, quelque chose qui ferait référence à la souveraineté, qui ferait référence à des usages du pouvoir tout à fait, oui, dépassé, peu fin et visible et grossier et tout ce que l'on veut, en fait, à son époque, avait répondu à un besoin d'affinement, vraiment de l'usage du pouvoir et en particulier spatial. Donc, un, la prairie américaine, pourquoi le barbelé ? Parce que les méthodes de délimitation de l'espace agricole de l'époque étaient trop lourdes, tout simplement, hein, trop lourdes matériellement pour pouvoir couvrir un espace aussi important que l'Ouest américain, et en particulier couvrir cet espace important d'une manière mobile, c'est-à-dire de faire progresser la frontière de la colonisation américaine avec un rythme extrêmement rapide. Donc on avait besoin d'un matériau qui puisse effectivement repousser des êtres vivants, que ce soit des bêtes ou des êtres humains, mais qui soit, si vous voulez, beaucoup plus léger en termes de coûts et en termes de dépenses d'énergie pour délimiter le même type d'espace. Donc le barbelé, à ce moment-là, il n'est pas du tout... Il faut bien comprendre qu'il n'est pas synonyme du tout de lourdeur, d'archaïsme ou de brutalité. Il est au contraire synonyme d'affinement, d'allègement de la manière dont on va occuper l'espace. Ça va vraiment être les caractéristiques propres à la colonisation américaine. Ce qu'on va retrouver par rapport à la Première Guerre mondiale, c'est que justement, de la même manière, comme en termes de besoins stratégiques, par rapport au nouveau type d'armement et à la nouvelle manière de faire la guerre, là aussi extrêmement mobile, et avec une puissance de feu tout à fait inédite, les matériaux classiques pour fortifier une frontière sont inefficaces. Donc à chaque fois, c'est un problème de manque. C'est un problème de trou stratégique, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui doit être détourné ou inventé, comme c'est le cas pour la prairie américaine, ou détourné de son usage, c'est-à-dire détourné de son usage agricole pour devenir un usage militaire, afin de combler un manque stratégique. Et le manque stratégique, là, ça va être aussi l'économie. Hein, fortifier une frontière de plusieurs milliers de kilomètres, évidemment, il faut un matériau qu'on puisse déployer avec un coût minimal. Mais ça va être aussi une autre composante extrêmement importante, qui est justement la légèreté, la mobilité, ce qui était déjà le cas pour la frontière américaine. Mais là, c'est beaucoup plus important, puisque les tranchées doivent progresser, si vous voulez, elles doivent pouvoir bouger dans la journée. Donc là, il faut un matériau qu'on puisse déplacer dans la journée. Et par ailleurs, une troisième caractéristique extrêmement importante, c'est la plasticité, c'est-à-dire que la capacité à délimiter un espace d'une manière efficace avec un matériau qui résiste à ce qui veut le traverser. Donc le barbelé a cette caractéristique très étonnante d'être à la fois extrêmement solide tout en étant extrêmement souple. C'est-à-dire que sa solidité, c'est sa souplesse. Le barbelé est un matériau qui absorbe la force qui veut le pénétrer. Le mur, lui, ne fait qu'opposer une résistance passive, donc il est détruit par les bombardements. Et ce que disent très bien les généraux de l'époque, c'est que un réseau de barbelés de 30 mètres de profondeur, pour le détruire avec des bombardements, il faut l'inonder. Mais l'inonder de bombes, et encore, même après, le réseau peut être pire qu'avant, parce qu'il est déchiqueté, il s'envole sous la force des bombes, puis il retombe. Et ça, c'est même peut-être encore plus difficile à traverser. Donc il y a vraiment cette idée de souplesse qui est extrêmement importante. Et avec les camps, avec l'usage concentrationnaire des barbelés, là aussi c'est un détournement. Alors, je reviendrai sur ce problème des détournements. De l'usage agricole ou militaire, c'est encore un autre usage, va se découvrir d'autres caractéristiques vont être au centre de cet usage, d'autres caractéristiques du barbelé, qui sont aussi la légèreté, qui sont aussi la mobilité, qui sont aussi la souplesse, mais qui vont être aussi la discrétion. Et la capacité à produire un espace d'enfermement extrême d'une manière discrète dans l'espace, discrète statiquement et dynamiquement, dans la mesure où on peut faire disparaître toute trace de ce camp de concentration, ou quasiment toute trace, très facilement, puisqu'il n'y a pas de fondation. Alors que si on fait un camp en dur, ça laisse des traces beaucoup plus importantes. Et ça fait partie du projet, évidemment, nazi, de construire des camps furtifs, qui possèdent une certaine furtivité. Donc l'usage, ces usages du barbelé, qui répondent à des besoins stratégiques de l'occupation de l'espace, permettaient, et c'est pour ça que ces trois usages sont importants, de dessiner, finalement, un phénomène, un processus dont le barbelé est une étape. C'est-à-dire un processus de virtualisation des délimitations de l'espace qui, justement, répond à une nouvelle manière de gouverner les hommes. Gouverner les hommes dans l'espace, ça va être, et là je reviendrai sur ce point aussi, de plus en plus, non plus les fixer sur un territoire donné par des matériaux et des technologies statiques et symboliques, comme c'était le cas pour la fortification du souverain, mais de pouvoir délimiter finement l'espace d'une manière mobile, discrète, légère, plastique, de telle manière qu'on puisse agencer des espaces différentiels pour gérer les hiérarchies de population. Donc c'est vraiment cet ensemble-là. Le barbelé ne représentait pas, si vous voulez, simplement un objet lié à des événements politiques. Pour moi, il représentait une étape dans un processus technologique indissociable d'un processus politique, qui est la virtualisation des délimitations de l'espace. Sauf que cette virtualisation, il ne faut absolument pas la comprendre, et je reviens sur ce que tu disais sur Deleuze, comme un remplacement. D'ailleurs, dans la première édition, c'est quelque chose qui n'avait pas été, que je n'avais pas perçu autant que maintenant, et je pense que justement, c'était aussi une question de temps, c'était en 2000, 99 pour être exact, pour la recherche documentaire. Et ben, entre-temps, c'est confirmé quelque chose d'assez étonnant et qui me permettait d'insister finalement sur ce point, qui est la grande vitalité, la grande vivacité de l'outil barbelé. C'est-à-dire que ce que vous pourrez penser comme une simple étape, vouée à disparaître et à être remplacée par des technologies électroniques, de télécommunications, etc., possède finalement une très grande vitalité. C'est-à-dire une présence des innovations technologiques, puisque le barbelé a changé de forme, et ce changement de forme lui permet d'être efficace dans des nouvelles conditions. Et donc cet outil archaïque du pouvoir, il est toujours présent à certaines conditions politiques, puisqu'il y a des endroits où il n'est pas possible de mettre des barbelés, parce que c'est trop choquant. À certaines conditions technologiques, il y a des endroits où on va vouloir une fluidité de circulation, le barbelé ne sera pas forcément efficace, etc., peu importe. Mais il a toujours son utilité pour certaines conditions données. Ce qui veut dire que le film en accéléré que je voulais faire à la base, qui était en gros ce processus de virtualisation, le mur, le barbelé qui est déjà une sorte de virtualisation du mur, donc de disparition du mur, et plus rien, c'est-à-dire les ondes électroniques, optiques, qui permettent de délimiter un espace sans mobiliser la matière. Ce film-là, il est trompeur, il est vrai pour mettre en avant ce processus de virtualisation, mais ce qui est très important, c'est de voir qu'actuellement, on a en fait une persistance de ces trois moments. Et une articulation tout à fait efficace de ces trois moments. La postmodernité, ce n'est pas la société de contrôle, c'est la souveraineté plus les disciplines plus le contrôle, pour reprendre les terminologies de Foucault et de Deleuze. C'est vraiment l'accumulation, la superposition, et plutôt même l'articulation. Et ce qu'il faut penser de notre temps, c'est l'articulation de ces trois moments. Et on voit bien dans les frontières, toutes les frontières maintenant, c'est l'articulation entre des murs massifs, des outils de type barbelé qui vont avoir une utilité particulière et des outils de type vidéosurveillance, géolocalisation, pour prendre des choses un peu plus... parce que la vidéosurveillance, moi. Ou alors vidéosurveillance intelligente, numérisée, etc. Parce qu'il faut réactualiser en permanence, ça va très vite. Donc une frontière, c'est ça. C'est pas simplement, on va faire des frontières invisibles, insensibles et totalement virtualisées. Non. À des endroits, il faut des murs. Pour différentes raisons, on pourra y revenir si vous voulez, il y a des exemples tout à fait connus. À des endroits, il faut des barbelés ou des grillages. À des endroits, des caméras suffisent. Ou à des endroits, il faut les trois en même temps. Donc, l'idée de la virtualisation, c'était bien plutôt une nouvelle modalité qui s'ajoute aux autres modalités de contrôle de l'espace. Une modalité souveraine qui consiste à fermer un espace de telle manière que cet espace soit un territoire. Une manière disciplinaire qui permette de structurer hiérarchiquement un espace de telle manière que chacun soit à sa place, et une manière de société de contrôle, ou disons postmoderne si vous voulez, enfin c'est pas des termes, peu importe, qui consiste à délimiter d'une manière insensible, et finalement, et c'est la fin de cette seconde édition, finalement surtout ne plus avoir besoin de délimiter, mais se contenter d'une localisation des individus à l'intérieur de certains flux. C'est-à-dire, tel objet, l'intérêt, c'est pas est-ce qu'il est dedans ou dehors, c'est pas à quelle place il est, mais c'est vers où il va, et à quelle vitesse. Et en fait, ces trois modalités-là, enfermement, hiérarchisation et traçabilité, c'est exactement l'espace que des technologies nous donnent. Alors, c'est un espace qui a cette triple dimension, et à chaque fois, il faut on est structuré, on se subjective aussi par rapport à ces différents types de gestion de l'espace. Et voilà, la grande erreur, et je relisais le post-scriptum à la société de contrôle, et Deleuze est quand même très très dans ce texte. Hein. Il est très dans l'exaltation qu'on peut avoir à partir du moment où on est dans la rupture historique et où on est aussi sur des nouvelles technologies, en train de dire, voilà, cette société de contrôle remplace la société disciplinaire. La société, d'une certaine manière, dans ce texte, il va même très fort, il dit, la société disciplinaire, c'est un peu fini. C'est la société de contrôle. Alors que si on prend d'autres textes, il dit bien qu'on a trois lignes, hein. qu'on est toujours structuré par trois lignes, des lignes dures, qui sont finalement des lignes de souveraineté, des lignes souples, qui sont des lignes de qu'on pourrait appeler, déjà c'est entre le disciplinaire, hein, c'est un peu compliqué, là, je transpose du Deleuze sur du Foucault, c'est pas toujours si évident, des lignes souples qui seraient, disons, finalement des lignes quand même disciplinaires, et des lignes de mouvement dont la traçabilité, c'est justement que la traçabilité, c'est de domestiquer d'une certaine manière. Donc on a ces trois lignes, elles sont en permanence présentes, elles structurent notre espace et aussi notre imagination, notre subjectivité. Et ce qu'il faut penser, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est, enfin à mon avis, c'est vraiment l'articulation des trois, et on pourra peut-être plus tard, mais je vais pas trop peut-être laisser la place à des réactions, mais c'est particulièrement visible sur les objets sur lesquels on travaille à l'ENAP, c'est-à-dire les objets pénaux et pénitentiaires, de voir que ces trois éléments et ces trois dimensions technologiques et politiques s'articulent en ce moment d'une manière très frappante. C'est-à-dire que, par exemple, il est bien évident, je prends un exemple juste comme ça, puis je lance, que le bracelet électronique ne signifie absolument pas la fin de la prison et ne remplace pas du tout l'enfermement tout à fait classique, tout à fait disciplinaire, tout à fait archaïque. Il suffit, je ne sais pas, il y a peut-être à Bordeaux, je ne sais même pas s'il y a une prison de centre-ville, j'imagine que si. Je connais pas bien la carte des prisons. Mais il suffit de voir une prison de centre-ville, hein, une maison d'arrêt de centre-ville. On a bien là un mur qui reste, le mur tout à fait archaïque et classique de l'exclusion des lépreux, pour reprendre une image foucauldienne. C'est plus facile de
lancer le débat,
de voir ce qui peut vous intéresser, parce qu'il y a plusieurs dimensions dans ce travail. Et je ne sais pas exactement ce qui peut plus vous attirer, parce qu'il y a il y a une dimension effectivement plus géopolitique, qui n'est pas du tout ma spécialité, pour le coup. C'était plus une manière d'essayer de comprendre la permanence de ce type d'outils en termes de frontières. C'est vrai que mes objets privilégiés sont plutôt des objets d'enfermement, et en particulier de carcéralité pénitentiaire, etc. Mais bon.
Je crois, à un moment dans le livre, tu opposes la manière dont le barbelé donc fonctionne à la normalisation plutôt qu'à la loi, et tu dis plutôt que la loi c'est symbolisé par le mur, justement. Enfin, ou précisément, comme tu l'as expliqué, le barbelé renvoie plutôt à un dispositif où on met l'accent sur la mobilité des individus, alors que le mur induirait plutôt l'idée d'un empêchement, d'une...
Bah, disons, oui, l'idée par rapport à l'endroit où se place le barbelé en termes de technologie politique, c'était vraiment à la fois un aspect déjà disciplinaire de structuration hiérarchique de l'espace et biopolitique du fait de s'adresser au corps vivant. C'est-à-dire que le mur, même si le mur s'adresse aussi au corps vivant, hein, c'est schématique bien sûr, tout ça, c'est le mur a quand même cette dimension tout à fait particulière où la délimitation statique, qu'elle est essentiellement symbolique. C'est-à-dire que bien sûr, vous pouvez fortifier un mur de telle manière que ce mur soit efficace, pragmatiquement, pour repousser des corps, mais enfin, le mur, il a surtout cette dimension symbolique de dire, de marquer le début d'un territoire, et de marquer la différence de droit qu'il peut y avoir entre l'extérieur du mur et l'intérieur du mur. Donc il s'adresse de ce point de vue-là essentiellement à un sujet, et un sujet en rapport avec un souverain. C'est-à-dire que le souverain marque le territoire et dit au sujet, vous passez là un seuil. Et on peut vous informer plus ou moins sur ce qui se passe et sur ce que vous risquez quand vous passez ce seuil. Donc c'est aussi le fonctionnement à la loi. C'est-à-dire que vous avez le droit ou pas d'outrepasser ce seuil qui est marqué symboliquement. Bon. Ce qui est intéressant avec le barbelé, il peut aussi avoir cette fonction de dissuasion symbolique, mais il a aussi une autre fonction que le mur possède quand même beaucoup moins, c'est de s'adresser au corps vivant dans ce qu'il a justement pas de subjectif, mais de sensible, d'animal, c'est-à-dire par la douleur. En gros, le barbelé, il dit pas, là, vous passez un seuil et vous avez des conditions juridiques pour passer ce seuil, c'est-à-dire est-ce que vous avez le statut qui vous permet de passer ce seuil. Le barbelé, il dit un truc plus simple, il dit vous ne pouvez pas passer ce seuil parce que vous allez vous faire mal. Ce que le dit le barbelé, c'est pas simplement il s'adresse pas au sujet politique en tant que tel, il s'adresse à l'animal en disant ce seuil te fera mal. Donc est-ce que tu veux non pas prendre des risques juridiques en outrepassant ce seuil interdit, mais est-ce que tu veux prendre le risque de la douleur? Et donc c'est vraiment un message tout à fait différent, c'est un message que Foucault nommerait, je crois, biopolitique, dans la mesure où c'est un message d'une certaine manière politique, mais qui s'adresse en l'homme, non pas au sujet politique classique, mais à l'être vivant, en tant que cet être vivant et aussi à un objet politique, mais en tant que simple être vivant. Et c'est pour ça que le barbelé va s'adresser d'une manière analogue au mouton, à la vache ou à l'être humain, il lui dit à peu près la même chose, c'est-à-dire ça fait mal. Voilà. Ça fait mal, donc tu prends tes risques, mais pas des risques juridiques, des risques biologiques, des risques physiques. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a vraiment une différence à la fois technologique et politique. Et d'ailleurs, c'est, bon, il y a des détails un peu historiques rigolos, des, un peu anecdotiques, mais sur la naissance du barbelé, où au début, le barbelé est fait pour repousser les troupeaux, qui sont en pâture libre, et pour protéger les champs des cultivateurs bon, qui avancent vers l'ouest. Mais ce barbelé, ce premier barbelé, disons, a des barbes ou des l'aspect offensif, parce qu'il y a plein de formes, en fait. C'est des formes assez étranges, d'ailleurs. Blesse trop les animaux qui meurent ensuite dans la prairie ouverte. Donc il faut réduire cet aspect, justement, de douleur et de danger du barbelé, de telle manière que le troupeau ne meurt pas. Quoi. Alors que, par contre, évidemment, quand on va faire des barbelés militaires qui consistent à repousser des ennemis, on va faire des barbelés extrêmement offensifs. Et pour ceux qui ont vu de près des barbelés rasoirs, c'est pas des barbelés qui sont là pour préserver un troupeau. Hein. C'est vraiment des barbelés qui sont là pour repousser un ennemi de telle manière que si on, qu'il soit blessé à mort. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait mourir d'essayer de passer une barrière de barbelés rasoirs. C'est d'ailleurs arrivé. Par exemple, à Ceuta ou Melilla.
Oui, et alors, donc, cette opposition donc, entre le mur et le barbelé, donc, tu as dit effectivement que il faut penser l'articulation, la superposition donc des différents types de pouvoir, la souveraineté, la normalisation et la discipline. Et est-ce que dans l'imaginaire, justement, du barbelé, il n'y a pas encore quelque chose du mur, justement, qui continue à fonctionner comme l'appropriation de la souveraineté, en fait, quelque chose
Mais c'est là où c'est compliqué, c'est qu'à partir du moment où le barbelé s'est chargé symboliquement d'une manière aussi forte de la brutalité politique extrême, le barbelé peut avoir une fonction mixte, on va dire, à la fois de pure dissuasion symbolique en disant c'est un territoire interdit, et le fait de simplement montrer le barbelé, ce qui n'était certainement pas le cas, si vous voulez, dans les premières utilisations du barbelé. Il n'y avait pas du tout cette dimension symbolique, et donc le barbelé avait vraiment une pure fonction justement défensive, et dans sa capacité pragmatique à repousser des êtres vivants. Là, maintenant, forcément, il a cette dimension symbolique, et ce qui est très intéressant, c'est que cette dimension symbolique, elle est effectivement directement liée à ses usages historiques et à la force que ces usages historiques vont avoir dans les représentations de tel ou tel pays. Je m'explique, c'est que ici, je dis ici, bon, c'est pas forcément Bordeaux, hein, mais dans des espaces qui ressemblent aux nôtres, on va dire, pour différentes raisons, d'une part pour des raisons de sensibilité à la violence politique, relativement forte, surtout à la violence politique de ce type, c'est-à-dire physique, c'est-à-dire qui fait mal, et pour des raisons aussi de prégnance du symbole de la Shoah et d'Auschwitz, l'utilisation des barbelés dans des espaces urbains, dans des espaces normalisés, est extrêmement difficile. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser de barbelés, très peu, ça va être difficile. Il y a un coût politique assez important à utiliser des barbelés dans des espaces normalisés. Donc vous allez retrouver le barbelé dans des espaces soit peu visibles, peu fréquentés, à l'écart, ou dans des espaces où il va être légitimé, par exemple en haut des prisons. Mais même en haut des prisons, vous remarquerez que... Et il y a même des textes là-dessus, je ne dis pas qu'ils sont passionnants, mais il faut des fois se plonger dans des choses de ce type, sur l'architecture pénitentiaire, et qui tendent plutôt à dire que c'est des signes du pouvoir qu'il faut plutôt effacer. Plutôt, mais pas totalement non plus, puisqu'il faut quand même que ce soit un espace de souveraineté, etc. C'est des choses très intéressantes. C'est à quel moment on peut mettre du barbelé. Et là, vous avez à la fois des considérations techniques, stratégiques et politiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pays où vous pouvez très bien le faire, beaucoup plus facilement. Des pays où, d'une part, la sensibilité à la violence politique, à la violence de l'État en particulier, n'est pas du tout la même, pour des raisons diverses. Certains pays d'Amérique du Sud, même si ça tend à changer, mais enfin... Ou l'Afrique du Sud, par exemple. Et aussi des pays où vous n'allez pas avoir la même force du symbole liée à l'utilisation historique du barbelé. Donc vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus facilement des barbelés en haut des villas, en Afrique du Sud, par exemple, ou en Asie aussi, que dans certains pays d'Asie, ou dans les rues. Dans les rues, vous allez, pour arrêter le cours de manifestation, ben vous allez déployer des rouleaux de barbelés rasoirs sans aucune difficulté, alors que pour l'instant, les CRS ici ont un matériel plus... non pas moins efficace, mais plus discret. Plus discret. Donc c'est vraiment... ce double aspect, il s'est chargé effectivement d'une force symbolique qui rend son usage lié à un coup politique qui est proche d'un coup politique d'usage de la souveraineté. Voilà. C'est-à-dire le barbelé va être perçu comme un usage brutal de la souveraineté, ça très certainement, en particulier dans des espaces comme le nôtre. Ouais. C'est très compliqué. Vous avez, il y a des livres intéressants, je n'ai pas la référence en tête là, mais qui pointent très, très bien comment, par exemple, dans les résidences sécurisées aux États-Unis, vous avez toutes les possibilités, vous avez tout le spectre de la résidence sécurisée où tous les signes de violence, parce que c'est un signe de violence de clore comme ça un espace avec des outils, soit des outils massifs, soit des outils qui peuvent blesser. Donc vous allez avoir des résidences pour différentes raisons, hein. C'est ce qu'on peut appeler, si vous voulez, en gros stratégique, c'est-à-dire que stratégie commerciale aussi. Qui habite dans ces résidences, où cette résidence est placée, quel est le projet finalement aussi de cette résidence, parce que chaque résidence en général comme ça va avoir un projet particulier. Bon, tout un ensemble qui fait que vous allez passer, pour aller très vite, hein, vous avez tout le spectre, vous allez avoir la résidence où tout l'espace est délimité, sinon on n'est pas dans une résidence sécurisée, mais de la manière la plus discrète possible. Et vous n'allez pas montrer ce genre de choses. Parce que les gens qui habitent là, par exemple, ne veulent pas avoir le sentiment qu'ils se sont cloîtrés quelque part, alors que c'est le cas. Donc ils vont utiliser des technologies invisibles, beaucoup plus discrètes. Et à l'inverse, vous allez avoir des zones sécurisées de ce type, urbaines ou de résidences, qui vont être très militarisées, pour des raisons diverses, soit parce qu'effectivement l'endroit où est placée la zone est un peu différent, mais aussi pour des raisons symboliques de montrer et de réassurer les gens qui sont à l'intérieur, et aussi de dissuader les gens qui sont à l'extérieur, en disant, vous avez vu, il y a tous les signes de la militarisation, il y a en particulier des barbelés, qui n'ont pas forcément dans ce cadre-là une utilité opérationnelle extrême, mais qui vont avoir pour utilité de symboliquement d'affirmer la sanctuarisation d'un espace. Donc là, par exemple, dans ce cadre-là, est-ce que ces barbelés ont réellement une utilité pragmatique ou aussi une dimension symbolique ? C'est ça qui est assez intéressant. Vous allez avoir toujours, on revient un peu à ce qu'on disait, toujours les deux éléments. L'élément opérationnel, le barbelé comme empêchant réellement des gens d'entrer ou de sortir, et l'élément symbolique, le barbelé comme disant, affirmant un certain nombre de choses sur le statut de cet espace et de ceux qui y habitent. Donc les prisons, par exemple, je pense que si c'est bien un lieu où on peut encore utiliser des barbelés, même si je vous dis que c'est... Ça devient de plus en plus difficile parce que les détenus, en France en particulier, si on prend un cas qu'on connaît bien, gardent un statut, entre autres, c'est pas le seul statut qu'ils ont, mais gardent le statut de gens qui sont radicalement exclus et qu'on ne veut pas, dont il n'est pas, voilà, dont un pouvoir souverain interdit absolument de sortir de ce lieu, d'où les surveillants qui n'ont pas simplement le droit, mais le devoir de tirer sur quelqu'un qui a commencé à escalader le mur. Le devoir de tuer, dans le droit français, il n'y en a pas énormément. Donc il y a bien là l'expression d'un pouvoir souverain, hein, en prison, et le barbelé est là aussi pour en témoigner. Et je pense que là, voilà, l'UMD de ce type, c'est aussi ça. J'imagine bien ces deux éléments opérationnels et symboliques. Et de dire, ça fait peur, on se dit là, il y a une violence politique, mais aussi on se dit, ils ne peuvent pas sortir. Bon, les centres de rétention, il y a aussi plusieurs cas. Il y a des centres de rétention avec barbelés, d'autres qui n'en ont pas, mais le barbelé, dans ce cadre-là, va aussi avoir cette dimension symbolique. À tel point qu'on peut imaginer, et d'ailleurs ça existe, j'ai pas de cas, pas tant que ça, parce que j'ai pas trouvé de cas autant que ça, mais on pourrait tout à fait imaginer des gens qui utilisent à l'inverse, qui retournent l'effet symbolique contre une délimitation. C'est-à-dire qu'une délimitation qui veut se faire très discrète, on va mettre du barbelé pour histoire de montrer que cette délimitation est violente, mais que cette violence se voile derrière des technologies extrêmement discrètes. Et donc des gens qui sont opprimés par une délimitation pourraient très bien dessiner, ça par contre ça existe aux États-Unis sur la frontière avec le Mexique, et ou même placer des brins de barbelé histoire de dire, voyez, quelle est la nature véritable de cette frontière, c'est une frontière de souveraineté et c'est une frontière d'exclusion radicale. Et c'est pas juste une palissade. Parce qu'aux États-Unis, pareil, il y a des endroits où c'est une petite palissade, simplement, il y a des senseurs, il y a des tours avec des senseurs à intervalles réguliers qui scannent le désert et qui détectent chaque être humain qui traverse le désert. Donc, on peut mettre une simple palissade, c'est pas bien grave, avec des unités mobiles qui viennent chercher tranquillement les gars qui ont déjà fait 2 kilomètres dans le désert en train de se déshydrater. Pas besoin de mettre des barbelés, hein. Par contre, on va peut-être en mettre dans des zones urbaines pour dire aux gens, non, là, vous n'avez pas le droit de passer, etc. Donc c'est toute cette ce panel technologique qui doit être compris à la fois en termes opérationnels et en termes symboliques. C'est-à-dire ce qui est premier, c'est pas tant l'outil technique qu'un besoin stratégique par rapport à une délimitation qu'on veut opérer. Voilà. Qui, pour l'essentiel, a ces deux dimensions, opérationnelles et symboliques. Et le barbelé, il a cette diversité parce qu'il remplit toujours une certaine utilité. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que tu voulais peut-être aussi pointer, c'est qu'elle a bougé, effectivement. C'est-à-dire que l'utilité du barbelé, elle a bougé. Il en garde, finalement, et garde cette vivacité aujourd'hui, d'une part parce qu'il a évolué technologiquement, mais aussi parce qu'il a, justement, il s'est chargé symboliquement. ce qui devrait l'avoir, le faire disparaître, en fait, lui donne une certaine pérennité. Parce qu'il fait peur. Et parce qu'il signifie quelque chose aussi. Moi, je dirais ça de deux manières. C'est-à-dire, il y aurait un côté, et c'est lié, effectivement, le barbelé est dans une idée d'illusion aussi de liberté. C'est-à-dire qu'il empêche le corps de passer, il laisse l'esprit le traverser. Et c'est une fonction qui peut être tout à fait intéressante dans plein de cas. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile du fait de la dimension symbolique qui fait que le barbelé arrête la vue. Malgré la capacité de passer à travers. Mais il arrête la vue pour des raisons. Donc on va mettre des... Alors là, il y avait un exemple que j'aime bien. Je ressors. C'est un peu anecdotique, mais ça illustre bien les fonctions et le côté fonctionnel de tout ça. C'est justement le renouveau de la clôture végétale. C'est-à-dire des clôtures végétales extrêmement agressives, c'est en termes d'essence, hein, donc, qui sont des barbelés, en fait, hein, végétaux avec des épines conséquentes, mais des belles fleurs aussi au printemps, bon, et qui vont permettre de délimiter tout à fait aussi efficacement, sauf contre le feu, bon. Des zones, mais avec justement non seulement l'ouverture de la vue, la continuité de l'espace et même un gain esthétique. Voilà. Et ça peut servir à cacher des barbelés, d'ailleurs, ce qui se fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a toute une offre de design environnemental et défensif. Parce que précisément, le barbelé, malgré tout, ne laisse plus tant passer la vue que ça. L'autre aspect que je vois par rapport à ça, c'est moins sur la vue, mais sur la mobilité. Mais ça revient, à mon avis, un peu à la même question. C'est que vous remarquerez que en gros, hein, évidemment, il y a toutes sortes de contre-exemples. Le barbelé va justement être posé pour marquer une propriété tout à fait particulière. C'est une propriété qui est susceptible de bouger. Et c'est là où on est dans une forme d'exercice de la souveraineté tout à fait particulier. C'est-à-dire que c'est une souveraineté qui dit c'est mon territoire, mais ce territoire, il est susceptible de bouger à n'importe quel moment. C'est pour ça que je mets des barbelés, c'est-à-dire que je peux l'adapter, donc l'augmenter, mais aussi reculer pour revenir ensuite. Toutes les possibilités qu'on peut imaginer. Alors, je vous propose, mais je ne veux pas trop entrer sur ce débat-là, juste d'évoquer la frontière entre, enfin, le mur défensif entre les territoires palestiniens et ou ce qu'il en reste et Israël, et avec l'idée que on a l'image du mur comme un gros mur en béton de 9 mètres de haut, ce qui a été souvent montré, mais en fait, ça, c'est qu'en zone urbaine, précisément, pour empêcher la vue et la communication. Entre les deux zones urbaines densément peuplées, que les gens ne puissent passer que par des checkpoints précis et surtout qu'ils soient séparés totalement les uns des autres et qu'il n'y ait pas justement cette... Là, il y a un côté effectivement de souveraineté très fort. Mais pour le reste, en fait, l'essentiel de la frontière, c'est des grillages et des barbelés et des senseurs électroniques et des patrouilles. Parce que, évidemment, cette frontière, c'est à la fois l'expression d'une souveraineté. Et c'est à la fois une frontière de police. Alors, on ne va pas rentrer sur guerre et action de police, mais c'est exactement ce qui se passe dans ces territoires-là. C'est-à-dire qu'il y a une indistinction entre la guerre et l'action de police. Et ce qui fait que cette frontière, elle est susceptible de s'adapter à toutes sortes de situations, de conditions, de changements stratégiques, de rapports de force, en particulier de grignoter autant que possible un certain nombre de territoires, que si vous faites une frontière en dur, il est beaucoup plus difficile, évidemment, de la faire bouger. Donc vous fixez un territoire, vous fixez la séparation entre deux entités. Là, il ne s'agit pas réellement de ça. Il s'agit de fixer cette séparation en tant que cette séparation, elle est mobile. Et on peut la faire bouger autant qu'on veut. Et toutes les frontières militarisées par des barbelés sont, pas toutes, enfin la plupart, sont des frontières qui se sont sédimentées à partir d'un conflit mobile. Donc la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est fixe depuis très longtemps, mais il faut bien voir qu'au départ, c'est un front. C'est un front qui ne bouge plus, mais qui était susceptible de bouger. Donc il ne s'agit pas là de fixer une frontière définitive, pour des raisons d'économie aussi, on ne va pas mettre du béton, parce que c'est quand même assez long comme frontière, mais aussi pour des raisons de ce type-là, c'est-à-dire que l'espace là, il est à la fois délimité et ouvert sur une progression possible, ou sur une élimination de cette frontière. C'est pareil entre le Pakistan et le Cachemire. Il y a la frontière à ce niveau-là, enfin, la frontière au Cachemire, assimiler le Cachemire au Pakistan. Enfin, en tout cas, la frontière à ce niveau-là entre l'Inde et le Pakistan, on va dire, sur le point du Cachemire, c'est la même chose, c'est la sédimentation d'un front. Donc, c'est des frontières qui, si vous voulez, et c'est là où je rejoins l'idée d'espace ouvert, c'est à la fois des frontières, l'expression d'une souveraineté, puisque c'est bien la limite de d'État-nation, on va dire, et puis en même temps, c'est des frontières qui ont qui sont liées à une mobilité. Et donc elles sont fondamentalement ambiguës de ce point de vue-là, et je pense que le barbelé, ou du moins des outils légers, on ne va pas se fixer non plus sur le barbelé, hein, des grillages, ça peut être peu importe, mais des outils légers qu'on peut faire bouger très facilement sont là pour témoigner de ça. La référence, c'est soit un peu contraire, même si c'est plus compliqué, c'est la muraille de Chine ou le limès romain, que ce soit au nord en Écosse ou germanique. Le limès romain, il a pu bouger, mais enfin, il a bougé, il n'a pas beaucoup bougé quand même. C'était pas évident de bouger un mur de pierre de centaines de kilomètres de long. Donc, il a pu bouger, mais évidemment, il était là, le limès, pour justement témoigner de la partition absolue entre deux principes, quoi, hein, entre, on va dire ça comme ça, entre la civilisation et la barbarie, quoi, bon, pour aller vite. Et dans ce cadre-là, voilà, le mur, il fait très bien son office, quoi, parce qu'il est à la fois là pour empêcher les gens de passer, enfin le limès, mais il est aussi là pour témoigner de ça. Et le barbelé témoigne pas de ça. Il témoigne pas de ça, il témoigne juste d'un moment stratégique dans la lutte pour un territoire donné, quelle que soit la raison de cette lutte. Et donc la continuité de l'espace, je la vois là, moi. Barbelé ferme l'espace temporairement et en fonction de conditions stratégiques. Alors, bah c'était un peu, mais c'est bien d'y revenir parce que j'ai sûrement été très très vite là-dessus. Le barbelé est vraiment une étape dans ce processus de virtualisation. C'est-à-dire que les cinq caractéristiques que j'ai essayé de réunir pour définir la virtualisation, on les retrouve en plus abouti dans les technologies électroniques. Je vais juste m'expliquer. La virtualisation, en général, la manière dont on va la comprendre, si on dit que quelque chose se virtualise, on va simplement comprendre que ça se dématérialise. Donc, ça disparaît de la matière. Voilà. Et donc, ça devient intangible. Alors, bon, une délimitation virtualisée, si vous voulez, comme ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de contradiction. Comment fermer l'espace avec quelque chose d'intangible, quoi. En fait, la virtualisation, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que simplement la dématérialisation. La dématérialisation, ce n'est qu'une des caractéristiques de la virtualisation. Et avec cette dématérialisation, qui répond finalement essentiellement à des questions de coût, viennent quatre autres caractéristiques qui s'enchaînent, en fait. C'est que la dématérialisation, pourquoi on a besoin d'une délimitation dématérialisée ? En partie, comme le barbelé, simplement en partie, mais quand même en partie c'est le cas, c'est très très léger, ou totalement, dans le cas de, quasiment totalement, il faut quand même toujours un peu de matière, mais enfin, dans le cas de technologies électroniques. Bah, d'une part, c'est comme, et je reviens un peu à ce que j'ai dit, parce qu'on va avoir besoin de délimitations qu'on puisse faire bouger le plus facilement possible. D'abord, qui coûtent le moins possible, donc d'où dématérialisation, mais aussi qu'on puisse faire bouger le plus rapidement possible, d'où aussi l'importance de la dématérialisation. On va avoir, mais si on a ce type de délimitation, il va falloir aussi des délimitations d'une certaine souplesse, c'est-à-dire dont la résistance n'est plus une résistance des matériaux, c'est-à-dire faire la muraille la plus grande possible, la plus épaisse possible pour résister à ce qu'il veut traverser, mais qui vont chercher leur consistance, c'est-à-dire empêcher quelqu'un de passer, sous d'autres plans, et essentiellement sur un plan psychologique. C'est-à-dire que finalement, le barbelé, c'est ce qu'il fait. D'accord, il est conçu pour blesser la chair, mais sa dissuasion, elle est bien d'ordre psychologique, c'est-à-dire celui qui veut passer doit intérioriser ce que le barbelé va lui faire. Et les nouvelles technologies de délimitation, là où elles trouvent leur consistance, c'est précisément dans qu'est-ce que je risque, d'une certaine manière, en passant cette délimitation qui, en l'occurrence, ne m'empêche pas de passer. Simplement, toute la consistance d'une délimitation virtualisée, elle est dans l'esprit de celui qui décide de ne pas la traverser. La discrétion, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'intérêt stratégique du barbelé, au début, c'est sa discrétion. Je n'ai pas donné d'exemple, mais il y a vraiment des exemples à chaque fois très précis. Et en particulier, la Première Guerre mondiale et les camps. Première Guerre mondiale, il s'est bien dit que le réseau de barbelé, il est extrêmement dur à viser. Il est dur à repérer au niveau aérien, il est dur à viser par l'artillerie, alors qu'une muraille, ce serait beaucoup plus facile. Là, il y a vraiment un élément de discrétion au sens opérationnel. Et par ailleurs, les camps, évidemment, c'est ce que j'ai dit, c'était une discrétion plutôt dans la capacité à faire disparaître l'installation. Et enfin, tous ces éléments-là, qui sont donc des besoins stratégiques de délimitation, on veut des délimitations de ce type, elles sont connectées à une nécessité, c'est que plus vous virtualisez, plus vous devez connecter la délimitation avec la surveillance. Parce que plus cette délimitation est fragile. Et déjà, le barbelé, c'est-à-dire, il n'y a rien de plus facile que de passer une clôture de barbelé. Il faut juste avoir pensé à prendre une pince coupante, quoi. C'est pas... Enfin, le barbelé rasoir, il faut déjà la bonne pince coupante, quand même. Mais l'ancien barbelé, c'est extrêmement facile. Donc, il faut connecter nécessairement ces délimitations, en tant qu'elles sont virtualisées, avec une surveillance qui doit pouvoir intervenir pour protéger la délimitation. La délimitation, elle ne sert qu'à retarder l'agression, le temps que la surveillance absolument nécessaire puisse réagir. Donc vous avez ces cinq caractéristiques, dématérialisation, mobilité, souplesse, discrétion, réactivité ou surveillance, Et le barbelé est né pour répondre à ces exigences-là. Donc, je veux dire, c'est vraiment une étape dans ce processus-là. Ces cinq besoins stratégiques, ces cinq caractéristiques, le barbelé répond à ça. Simplement, pour différentes raisons, et dans différentes situations opérationnelles, il est devenu inefficace, voire contre-productif, pour différentes raisons. Par exemple, il ne va pas être discret, puisque symboliquement chargé, il ne va pas être si mobile que ça, parce que, bon, quand même, il y a une matérialité. Sa souplesse, bon, en l'occurrence, il reste justement quand même de l'ordre du matériau qu'on peut briser, etc. etc. Bon. Donc il y a des limites de ce point de vue-là au niveau pour le barbelé. Et par contre, si vous prenez une délimitation purement virtualisée, c'est-à-dire bon, des ondes optiques, mais encore mieux, bon, l'exemple que je prends à la fin, qui est peu connu, puisque c'est le dispositif sur lequel je travaille en l'occurrence, qui est le bracelet électronique mobile, basé sur une technologie GPS. Vous pouvez, c'est pour des gens après leur peine de prison, enfin si vous voulez, on pourra en parler, mais vous pouvez sur l'écran d'un ordinateur, sur une carte de type GPS, tracer un cercle, l'individu déclenche une alarme s'il rentre dans ce cercle. Donc par exemple, toute la ville de Bordeaux. Ou juste ici. Ici, ça fait un peu petit, mais un tout petit. Voilà, et ça déclenche une alarme. Donc c'est purement virtualisé. C'est totalement immatériel. Cette fermeture de l'espace, elle est totalement immatérielle. Elle est totalement mobile. C'est-à-dire que vous pouvez, avec votre souris, vous tracer ce que vous voulez. Elle est totalement... Alors plastique, c'est-à-dire qu'elle a totalement déplacé sa consistance de la matière vers le psychisme. C'est-à-dire que c'est l'intériorisation de l'individu qui se dit « je ne dois pas entrer dans cette zone ». Il a une alarme, la question c'est « est-ce que je continue ?» Ou « est-ce que j'enlève mon bracelet ?» C'est peut-être plus intelligent. Ou « est-ce que je recule ?» Parce que je risque un certain nombre de choses très désagréables si je continue à violer cet espace. C'est parfaitement discret, c'est-à-dire que quelqu'un là pourrait avoir ce dispositif sans qu'on le sache. Et c'est évidemment entièrement basé sur la réactivité de la surveillance. Donc, je ne sais pas si je réponds. Voilà, le barbelé, c'était une étape dans ce processus. Et ce qui est très intéressant avec cet objet, c'est qu'il est entre deux, d'une certaine manière. Il est dans l'entre-deux, il est dans l'imperfection par rapport aux caractéristiques stratégiques qu'il est là pour servir, il est dans l'imperfection. Et c'est en ça, d'ailleurs, qu'il révèle d'autant mieux ses caractéristiques, finalement, je trouve. Et c'est peut-être ça, voilà, l'aspect le plus... C'est que le barbelé, c'était déjà une étape décisive dans la virtualisation des délimitations de l'espace. Ce qui est plus difficile à voir maintenant. En termes de savoir, pour vous donner le niveau sur la naissance du barbelé, il y a une citation d'un vendeur de barbelés qui dit, en 1870, le barbelé vient d'être inventé, « C'est la meilleure clôture du monde, aussi légère que l'air, plus forte que le whisky, moins chère que la poussière. » Tout en acier et longue de plusieurs kilomètres, le bestiau n'est pas né qui pourra passer au travers. Messieurs, relevez le défi et amenez vos bœufs. C'est provocateur, mais c'est pour... La naissance du barbelé, elle est agricole. C'est un gars de l'Illinois, si ma mémoire est bonne, qui rencontre ce problème-là. Il y a plein de brevets qui sont déposés, en fait, dans les années, même dès 1850, etc., de clôture défensive. Parce que c'est un problème que des gens rencontrent, et ça va être justement typiquement américain, d'ailleurs l'inventeur, quoi. Ça va être l'inventeur basé sur des problèmes extrêmement concrets que lui-même rencontre et qui va inventer un truc qui, pour des raisons... ça, je ne peux pas non plus, je ne veux pas rejeter toute possibilité autre, mais pour des raisons essentiellement de pureté de l'objet, c'est-à-dire d'une simplicité extrême, au-delà, ce n'était pas possible, va rencontrer le succès, quoi. Parce que tous les autres prototypes sont assez lourds, ils sont assez complexes, ils sont difficiles à fabriquer. Donc l'idée est là, mais ce que va inventer, c'est vraiment un truc d'inventeur. Ce qu'il invente, Glidden, c'est un objet parfait technologiquement par rapport à ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus simple. Et on ne peut pas faire un meilleur ratio, enfin peut-être que si, mais quand même quand on regarde l'objet, il a cet attrait-là, hein, à la fois aussi esthétique. On ne peut pas faire plus simple, on ne peut pas trouver le meilleur ratio entre la simplicité de l'objet et son efficacité. Et après ça, il n'y a pas d'autre, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre théorisation de la naissance de l'objet, quoi. Et par rapport, par contre, à ses besoins stratégiques et à dans quel type de savoir il pourrait s'enraciner, là aussi, je serais assez désarmé parce qu'on est quand même... Il y a des choses au niveau... Là, c'est très difficile de vous répondre. Il y a des choses au niveau déjà de la l'utopie du contrôle mobile des individus et de dépassement de l'enfermement disciplinaire ou de l'exclusion souveraine. Il y a déjà des choses. Il y a un philosophe foucaldien, d'ailleurs, Claude-Olivier Doron, qui a fait un article très intéressant sur le système de guilloté, qui est un système de police qui date déjà, d'ailleurs, je crois, du XVIIIe siècle, et qui consiste à essayer de trouver un système administratif pour localiser les individus dans leurs déplacements. Donc ça, c'est déjà un rêve technologique et un rêve policier, donc en partie aussi étatique, qui consiste à dépasser les modèles d'enfermement qui, malgré tout, règnent au XIXe siècle. Donc je pense que là, il y aurait sûrement tellement des choses, mais c'est difficile de vous répondre plus précisément comme ça. Et Foucault, finalement, c'est un peu... En même temps, oui, on peut faire ça aussi. C'est-à-dire que c'est un peu exactement ce qu'il dit avec la variole, par exemple, au XIXe siècle, c'est-à-dire le dépassement de modèles d'exclusion ou d'inclusion. Bon, d'ailleurs, c'est la fin, finalement, du bouquin, en même temps. Les modèles d'exclusion du lépreux ou d'inclusion du pestiféré, on peut y revenir si vous voulez, par des modèles de traçabilité, quoi. De traçabilité d'individus en tant que ces individus doivent se déplacer, parce qu'il n'y a pas de raison de les exclure, il n'y a pas de raison de les enfermer. Mais ces déplacements comportent des risques, donc il faut pouvoir savoir où ils se déplacent et quelle est la nature de ces déplacements et finalement mesurer le taux de risque des déplacements. Et c'est exactement ce qui se passe avec le bracelet électronique mobile. Toute la conception, c'est une conception de gestion des risques. Quels sont les risques du déplacement d'un individu qu'on va considérer comme dangereux? Et l'outil technologique sert à relier finalement ces déplacements avec une évaluation de risque. Évaluation, on ne peut plus d'un niveau de rigueur extrêmement faible, mais qui a le mérite, pour le coup, peut-être d'avoir aussi une dimension symbolique. Mais là, est fantasmatique. Mais en tout cas, il y a cette idée de dépasser effectivement l'enfermement, de dépasser l'exclusion, de dépasser l'enfermement vers des modèles de traçabilité. Et ça, c'est vrai que ça naît dès le 19e siècle, plutôt sous la forme d'utopie, soit d'utopie policière, on va dire, quelque chose comme ça, qui n'a pas encore les moyens. C'est très intéressant ce que dit Doron sur guilloté, parce qu'il fait le rapprochement avec le PSEM, d'ailleurs. On a l'impression que ce système de traçabilité n'a tout simplement pas les moyens techniques de sa réalisation. Il est déjà là conceptuellement, mais il a pas les moyens techniques de sa réalisation. Ce serait une manière d'aborder les choses. Alors bon, je sais pas si ça fait référence au triptyque foucaldien entre souveraineté, discipline, dispositifs de sûreté. Ces dispositifs de sûreté qui sont justement un dépassement ou une modalité supplémentaire, hein, pas un dépassement. Un dépassement, mais en sachant que les deux autres continuent d'exister. Foucault est extrêmement clair là-dessus, pour le coup. Deleuze, là, dans ce texte, les moins, mais Foucault est extrêmement clair pour dire que tout ça se combine. Et que ce qui est intéressant, c'est le type de combination, comment ça se combine, quoi. Comment la souveraineté, la discipline et la sûreté, parce que c'est le terme maintenant qui, d'ailleurs, est utilisé, hein, le bracelet électronique mobile, c'est dans le cadre de mesures de sûreté. Donc, dispositif de sécurité, logique sécuritaire ou logique de sûreté. Et vous avez, voilà, la souveraineté, la discipline, la logique de sûreté ou la logique sécuritaire, la manière dont ça se combine. C'est ça qui est assez intéressant. Non, mais j'ai l'impression de ne pas avoir été extrêmement clair sur la réponse. Là, je voudrais juste peut-être schématiser d'une manière extrêmement simpliste. En fait, si on prend le bracelet électronique mobile tel qu'il existe, ce qui est très intéressant, c'est que lui-même, qui est vraiment une technologie de sûreté, avec totalement virtualisé, etc., en fait, il cumule les trois logiques spatiales que Foucault distinguait. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où l'individu n'a pas le droit d'aller. Et ça correspond exactement à ce que Foucault appelait l'exclusion du lépreux. Il n'a pas le droit d'aller dans cet endroit, ça va être par exemple le domicile de la victime, parce qu'il est totalement indésirable dans ce lieu. Il est exclu radicalement de ce lieu. Et la prison, par exemple, fonctionnait déjà aussi comme lieu d'exclusion. Exclure radicalement des individus de la société. Par ailleurs, le placé, celui qui a son bracelet électronique, il a des zones d'inclusion, c'est-à-dire des zones d'assignation selon certains horaires. Il est obligé d'être à certains endroits selon un certain emploi du temps. Ces zones d'inclusion, elles sont censées participer à sa réinsertion. Donc ça va par exemple être des moments de soins psychiatriques, le travail, la famille, etc. Donc tous les piliers qui sont censés servir à sa normalisation disciplinaire. Et là, on a vraiment l'inclusion du pestiféré, c'est-à-dire l'inclusion qui est censée justement contraindre l'individu à un certain régime spatio-temporel de telle manière qu'on le transforme positivement. Et vous avez par ailleurs la traçabilité, c'est-à-dire l'évaluation des risques et des déplacements de cet individu en dehors de ces zones d'exclusion ou d'assignation. Et là, vous avez vraiment gestion des risques, c'est-à-dire cet individu doit se déplacer, en plus du reste, et on doit évaluer les risques de ces déplacements. Donc vous avez une triple figure qui coexiste chez cet individu, à la fois un malade incurable, un lépreux, qui ne doit pas s'approcher de certains endroits, qui est interdit d'accès à certains endroits, à la fois un pestiféré ou un malade qu'il faut guérir. Pestiféré, on ne peut pas le guérir, mais l'idée de la peste, hein, c'était de guérir les populations. Donc un malade qu'il faut guérir et qu'on va donc obliger à suivre un certain traitement, quel qu'il soit, et à la fois un individu à risque, donc on peut dire une sorte de convalescent, quelqu'un qui peut se déplacer, qui a une forme de normalité, mais aussi une forme de vulnérabilité, et dont il faut pouvoir mesurer les risques de déplacement. Et en fait, se placer, il est les trois en même temps. Ça veut dire qu'il est à la fois la cible de trois grands types de pouvoir, un pouvoir de souveraineté d'exclusion, un pouvoir disciplinaire de normalisation et un pouvoir de gestion des risques. Et il a les trois sur le dos. Certainement, il le mérite. Ça,
d'autres problèmes. Et alors, est-ce que justement, ce n'est pas cette combinaison des trois types de pouvoir qui produit ce que tu appelles les effets d'euphémisation qu'on pourrait avoir si un certain type de pouvoir était isolé, qu'on pourrait avoir...
Ah, ça, pour le coup, je n'y ai pas pensé.
Il y a un moment où tu consacres plusieurs...
Oui, mais sur l'euphémisation de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire que les technologies virtualisées ont cette vertu d'euphémiser, c'est un peu un mot un peu barbare, c'est-à-dire de présenter le pouvoir comme adouci, l'exercice du pouvoir comme adouci par rapport à son exercice réel. C'est-à-dire qu'on va exclure des gens, mais on va le faire de telle manière que cette exclusion ne paraisse pas aussi brutale qu'elle est en réalité. Voilà. Où on va obliger des gens à rester à tel endroit, mais de telle manière que ça soit euphémisé. Pour le coup, le bracelet, il est évidemment euphémisé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enfermement plus euphémisé qu'un enfermement qui est tout simplement invisible. Si vous ne parlez pas avec la personne qui porte le truc, ce qui est peu probable, ça n'existe pas. Ce n'est pas que c'est euphémisé, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a aucun gramme de matière qui a été déplacé pour le contraindre spatialement. C'est invisible. Voilà, ça ne change rien pour le reste de la population. Ça ne concerne que cet individu et personne ne va s'y intéresser, ça c'est évident. Donc c'est plus que féminisé, c'est presque dissipé, quoi. C'est l'exercice d'une violence et d'une brutalité spatiale sur un individu, encore une fois qu'il est mérité ou pas, on peut en discuter, mais là on est au-delà du mérite largement sur ces mesures de sûreté, puisque c'est pas du tout le problème. D'une manière qui n'existe que pour l'individu qui l'a subi. Alors que l'exercice matériel du pouvoir, qu'il soit souverain ou disciplinaire, il concernait nécessairement l'ensemble de la population puisqu'il marquait l'espace commun, d'une manière ou d'une autre. Là, ça ne marque pas l'espace commun. Et toutes les délimitations spatiales qu'on peut faire, qui peuvent être extrêmement complexes, massives pour cet individu, elles vont disparaître entièrement quand son placement sera fini. C'est irreprésentable, d'une certaine manière, ce que cet individu vit. On ne peut pas le symboliser. Le barbelé, on pouvait encore symboliser la violence spatiale, et même très fortement, c'est devenu un symbole de la brutalité spatiale. La violence, les outils virtuels, enfin les outils électroniques, tels qu'ils vont continuer et commencer à exister, on n'est qu'au début finalement, c'est une question que je poserais plutôt, dans quelle manière ils vont pouvoir se symboliser? Dans quelle manière on va pouvoir avoir une approche symbolique de la violence et de la brutalité politique qu'ils représentent? Ça va être très difficile. Le bracelet, c'est encore un peu lourd. Bon, il y a le bracelet, puis il y a un boîtier GPS. Bon, enfin, ça se cache relativement facilement. Mais ça, c'est déjà dépassé. Donc, il y a des choses totalement invisibles. Hein. Il est possible d'implanter des choses sous la peau, etc. Enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais ça va tellement vite que, de toute façon, l'intérêt, c'est justement ça. C'est cette dématérialisation. Alors après, sur la combinaison des trois aspects de telle manière que ça crée une euphémisation, ça, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de cohérence. Voilà, on ne sait pas vraiment à quel pouvoir on fait face, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir souverain vraiment, mais ça l'est un peu. Ce n'est pas un pouvoir disciplinaire vraiment, mais ça l'est un peu. Ce n'est pas non plus simplement un pouvoir de gestion des risques. C'est tout ça à la fois, ce qui fait que c'est extrêmement difficile à saisir, à la fois conceptuellement et, comme j'ai dit, en termes de représentation.